Imaginons un instant une situation tragique, vraiment tragique, mais malheureusement trop courante dans le monde associatif.
Ouais, c'est clair. Le genre de truc qu'on préfère éviter.
Voilà. Un hôpital géré par une ONG est soudainement contraint de fermer ses portes. Du jour au lendemain, des milliers de personnes se retrouvent sans accès aux soins. Et le plus troublant dans l'histoire, c'est que cette fermeture, elle n'est pas due à un manque de médicaments.
Ni à une catastrophe naturelle.
Ni même à un manque de financement initiaux, en fait.
Exactement.
Non, la clinique ferme tout simplement parce que deux membres du conseil d'administration se sont lancés dans une guerre d'égo monumentale. Tout ça autour d'une décision stratégique à la base.
Et ça, c'est le scénario redouté par tous les professionnels du secteur. On a tendance à l'oublier, mais l'effondrement des initiatives humanitaires vient très souvent de l'intérieur.
C'est fou quand on y pense.
Ouais, l'enthousiasme des débuts, les bonnes intentions, ça ne suffit jamais à pallier les failles de gouvernance. Si le conflit s'envenime, la transparence financière vole en éclats. Les grands bailleurs de fonds internationaux paniquent.
Et ils coupent les vivres.
Tout simplement. Il se retire.
Et c'est exactement ce qui rend notre exploration documentaire d'aujourd'hui si pertinente. D'accord, décortiquons cela. Parce que lire des statuts d'association, ça peut sembler aride sur le papier. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la beauté du geste médical. On va plonger dans le code source d'une organisation qui a manifestement décidé de se prémunir contre ce genre de désastre.
Une approche préventive, ouais.
Il s'agit de Grace Health, ou Grâce Santé. C'est une organisation non gouvernementale basée à Douala, au Cameroun, et ils sont très actifs dans la santé communautaire et la télémédecine.
C'est un domaine hypersensible d'ailleurs, la télémédecine.
Absolument. Et en examinant leur statut et leur règlement intérieur, notre objectif, c'est pas de lister des articles de droit de façon ennuyeuse, c'est de comprendre comment on bâtit une architecture de confiance, comment des règles strictes garantissent que l'effort humain arrive réellement jusqu'au patient.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, ces documents ne sont pas que de la bureaucratie. C'est un véritable bouclier éthique. Pour une ONG œuvrant dans la santé communautaire, la moindre faille de gestion peut avoir des conséquences vitales. Le filtre à l'entrée est d'ailleurs la première ligne de défense.
Et justement, pour comprendre l'exigence de cette organisation, il faut d'abord regarder comment on y entre. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que la porte de Grace Health ne s'ouvre pas facilement.
C'est une forteresse.
Mais c'est ça, hein? Quand on parcourt les conditions d'adhésion pour une personne physique, on est très loin du petit formulaire en ligne qu'on remplit en deux clics pour rejoindre un club de loisirs.
Ah ben là, c'est une procédure qui ressemble à une véritable embauche.
Une embauche très stricte même. Le dossier exige une demande manuscrite, une lettre de motivation, une copie d'une pièce d'identité, l'acte de naissance, un CV signé. Mais il y a deux détails dans les statuts qui m'ont vraiment fait arrêter ma lecture. L'exigence de fournir 6 photos d'identité au format 4x4 sur fond blanc et un plan de localisation du domicile.
Ouais, ça surprend toujours. Hein.
Mais attendez, 6 photos et un plan pour situer sa maison. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On postule presque pour une habilitation de sécurité gouvernementale, là. Est-ce que cette rigueur ne risque pas de décourager les bonnes volontés?
On pourrait le penser, ouais. Mais il faut replacer cette exigence dans son contexte urbain et opérationnel. Douala, c'est une métropole immense. Elle est en perpétuelle expansion. Et l'adressage formel, je veux dire par là le nom des rues, les numéros de bâtiments, ce n'est pas toujours standardisé comme on pourrait s'y attendre ailleurs.
Ah, je vois. Donc on ne peut pas juste donner une adresse postale classique.
Exactement. Exiger un plan de localisation précis, tracé à la main ou documenté spécifiquement, c'est pas une lubie de bureaucrate. C'est un mécanisme de traçabilité pur et dur.
Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas simplement s'évaporer dans la nature si on commet une faute grave.
Précisément. Une ONG qui gère des données médicales sensibles, des dossiers de patients et des fonds de donateurs, elle peut pas se permettre d'avoir des membres fantômes. Si une personne a accès au serveur de télémédecine, l'organisation doit savoir exactement où elle réside.
Pour pouvoir la retrouver en cas de problème pénal, par exemple.
Voilà, c'est une mesure de dissuasion avant même le premier jour de travail. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette barrière à l'entrée filtre les opportunistes.
Et cette volonté de chasser les profils flous s'applique aussi aux personnes morales, n'est-ce pas?
Si une entreprise veut devenir partenaire.
Absolument. Il suffit pas qu'un directeur passe un coup de fil pour dire « on vous soutient ». Oui, j'ai vu la liste des documents requis pour les entreprises. Ça inclut une demande officielle, les statuts de l'entité, un récépissé de déclaration et surtout une délibération interne officielle désignant nommément le représentant.
Et ça, c'est crucial. Ça empêche un individu d'engager son entreprise à la légère ou dans le dos de son propre conseil d'administration. C'est la garantie que l'engagement institutionnel est légalement blindé.
C'est du solide oui. Mais au-delà de toute cette paperasse, il y a aussi la barrière morale. Pour devenir membre actif, le postulant doit signer une montagne d'engagements éthiques. L'acceptation des statuts, le code de déontologie, la charte de protection des bénéficiaires, des politiques de lutte contre la corruption.
Et la protection des données personnelles, n'oublions pas.
Bien sûr. Avec en prime une possible période probatoire de 6 mois. C'est quand même intense, non ?
C'est intense, oui. Mais dans le domaine de la santé, la spontanéité est parfois un danger. La période probatoire de 6 mois sert de test d'endurance. Quelqu'un qui cherche juste à faire du réseautage n'aura pas la patience de franchir ça. Ceux qui restent sont profondément engagés.
Bon, une fois que ce filtre a fait son œuvre, on se retrouve donc avec un groupe d'individus très qualifiés et motivés.
Des profils forts, ouais.
Mais alors comment on fait pour que tous ces gens ne finissent pas par se marcher sur les pieds ?
L'organisation a créé des catégories ultra précises. On parlait des membres actifs, leurs droits sont clairs, ils votent, ils sont éligibles, ils ont accès aux formations. Mais leurs devoirs. Évidemment, il y a le paiement des cotisations. Mais ce qui revient en boucle, c'est la stricte confidentialité. Ce n'est pas juste « soyez discret », c'est un devoir absolu. Et c'est logique, vu le cœur de métier de Grace Health. La télémédecine, ça implique le transfert et le stockage de données médicales personnelles. Une simple fuite de données peut entraîner des poursuites pénales qui fermeraient définitivement l'ONG.
Ouais, ça ne pardonne pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un traitement spécifique pour les consultants, non ces experts externes qui viennent ponctuellement.
Exactement. Les consultants sont tenus au respect total de la propriété intellectuelle. Si un développeur crée un nouveau protocole pour l'ONG, l'outil reste la propriété de l'association. Il ne peut pas partir avec pour le vendre ailleurs.
Logique. Maintenant, passons à une comparaison qui m'a vraiment interpellée. Les statuts font une séparation très nette entre les membres fondateurs et les membres d'honneur. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Est-ce qu'on ne crée pas une forme de système de caste associative ici ?
Ah, je n'utiliserai pas le mot « caste ». C'est plutôt une gestion chirurgicale du capital humain. Assigner des droits et devoirs clairs évite les conflits de légitimité. Regardez les fondateurs. Ils ont un statut perpétuel et un droit de veto sur les modifications majeures des statuts.
C'est un pouvoir immense, hein ?
C'est colossal. Ils sont l'ancre du navire. Ils s'assurent que l'ONG ne devienne pas, par exemple, une entreprise commerciale dans 10 ans.
Et les membres d'honneur, alors ?
Eux, ce sont les voiles du navire. Ils reçoivent un titre viager pour des services exceptionnels. Ils ne payent pas de cotisations, ils apportent leur prestige, leur réseau. Mais ils n'ont qu'une voix consultative. Ils ne peuvent pas bloquer une décision. L'influence est déconnectée du pouvoir de blocage.
C'est un équilibre fascinant. Et on retrouve cette volonté de clarifier les choses avec les bénévoles et les partenaires institutionnels. Les bénévoles donnent de leur temps sans rémunération, mais sont soumis à la même discipline que tout le monde. Par contre, les partenaires institutionnels, c'est une autre histoire.
Eux, ce sont des personnes morales, des entreprises par exemple.
Oui, et contrairement aux bénévoles, ces partenaires payent des frais importants. Le document mentionne 200 000 francs CFA d'adhésion et 100 000 francs CFA de cotisation annuelle. Pourquoi demander de l'argent pour avoir le droit d'aider ?
C'est très intelligent en fait. L'erreur de beaucoup d'associations, c'est d'accepter des fonds sans définir les limites. Le partenaire financier finit par croire qu'il a acheté l'ONG. En exigeant ses frais via une procédure formelle, Grace Health dit clairement « on accepte votre soutien, vous participez via un représentant, mais vous ne possédez pas nos actifs ».
Notre indépendance n'est pas à vendre.
C'est exactement ça. Ça aligne les attentes de tout le monde.
D'accord, donc on a une porte d'entrée blindée, des rôles ultra définis, mais avoir des rôles clairs nécessite un chef d'orchestre, sinon c'est la cacophonie dans la salle des machines. Et c'est là qu'on aborde la hiérarchie et la discipline.
La gouvernance au quotidien ? Ouais. L'Assemblée générale reste l'organe suprême de décision.
Et le président général dirige l'ensemble pendant que le bureau exécutif gère le quotidien, du grand classique. Mais il y a ces organes consultatifs qui sont très originaux, comme le comité des sages.
Ah, le comité des sages, c'est une trouvaille formidable. Ils n'ont pas de pouvoir de sanction, mais ils sont là pour apporter sagesse et médiation. Dans certains contextes culturels, sanctionner publiquement un membre, c'est une humiliation qui peut fracturer l'association.
Donc les sages règlent ça en douceur, en coulisses.
Voilà, ça évite les sessions internes.
Et en parlant de réunion, j'ai noté une règle très spécifique sur leur fonctionnement. Pour prendre une décision, il faut la majorité simple des 2/3 des membres présents. Mais si ce fameux quorum des 2/3 n'est pas atteint, on ne vote pas avec les personnes restantes. Les statuts imposent un report de 15 jours.
Ça soulève une question importante sur la pérennité des ONG. Ce délai de 15 jours, c'est une protection anti-putsch.
C'est-à-dire ?
Imaginez qu'un petit groupe veuille faire passer une décision dans le dos des autres. Ils attendent qu'une grande partie des membres soit absente pour voter en urgence. Avec ce report de 15 jours, c'est impossible. Ça laisse le temps à tout le monde de s'organiser pour la prochaine réunion. D'ailleurs, le fait qu'ils valident la participation par visioconférence modernise vraiment tout ça.
C'est très bien pensé. Et s'il y a vraiment une faute grave ? On passe à la discipline. L'arsenal est graduel, avertissement, blâme qui est inscrit au dossier, suspension avec privation de droit, destitution de fonction, et pour finir, l'exclusion définitive pour fraude ou corruption.
Ce qui est la norme. Mais il y a un point crucial.
Le droit à la défense. C'est ce qui m'a le plus marqué. C'est marquant de voir à quel point ce droit est gravé dans le marbre. Aucune sanction n'est prise sans que le membre puisse s'expliquer. On se croirait presque dans une structure étatique avec séparation des pouvoirs.
Une discipline claire et juste évite les règlements de contrat arbitraire. C'est vital.
Bon, tout ce comportement exemplaire, toute cette discipline, ça n'a de sens que si l'argent est géré de manière irréprochable. C'est le nerf de la guerre. Et on arrive dans ce que j'appelle le coffre-fort de l'organisation.
La transparence financière. Là, on ne rigole plus.
Pas du tout. Le principe de base, c'est la non-appropriation. Personne ne s'enrichit. Ils acceptent le mécénat, le sponsoring et même les plateformes numériques sécurisées pour les contributions. Mais le contrôle est maniaque.
Et c'est nécessaire.
La double signature obligatoire pour les mouvements bancaires. Il faut par exemple le président et le trésorier ou le président et le commissaire aux comptes. Impossible de vider les caisses tout seul. Sans parler de la reddition des comptes avec toutes les factures, les obligations de produire des rapports annuels financiers et d'audit avant l'AG.
Et l'exigence d'avoir un commissaire aux comptes pour certifier tout ça.
Mais là, je vais me faire l'avocat du diable. Tout ce contrôle comptable, ces doubles signatures, ces rapports, est-ce que ça ne ralentit pas dramatiquement les actions d'urgence sur le terrain face à des populations qui ont besoin de soins immédiats?
C'est une excellente question, et c'est le grand paradoxe de l'humanitaire. La lenteur apparente de la procédure administrative crée la vitesse sur le long terme.
Comment ça ?
En fait, si vous n'avez pas cette transparence absolue, cette traçabilité numérique et cette lutte contre le favoritisme, les bailleurs de fonds internationaux ne vous regarderont même pas. Les grandes institutions mondiales exigent des standards stricts. Si vous faites les choses dans l'urgence, sans reçu, les financements s'arrêtent net.
D'accord. Donc, en prouvant qu'ils ont des standards internationaux, ils s'assurent que l'argent continue d'affluer.
C'est ça. Sans ces garde-fous, l'action sur le terrain meurt véritablement, par manque de moyens. La crédibilité internationale de Grass Health repose entièrement sur cette rigueur.
Eh bien, pour résumer tout ce qu'on vient de voir, c'est fascinant. Derrière l'apparente austérité juridique d'un règlement intérieur et de statuts qui ont l'air très administratifs, se cache en réalité le véritable système immunitaire de l'organisation.
Une belle métaphore, ouais.
Ces règles protègent l'association Grace Health contre la corruption, les conflits d'égo, la mauvaise gestion. Elles garantissent au final que chaque effort, chaque franc récolté, soit réellement dirigé vers les communautés vulnérables, vers les patients.
C'est tout l'enjeu. Ces textes nous prouvent qu'on peut créer un écosystème parfait sur le papier, avec des procédures impeccables. Mais, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, la véritable question qui se pose pour toute institution humaine est la suivante. Face à une crise morale ou financière majeure, une organisation est-elle vraiment sauvée par la perfection de ses lois ou par le courage individuel de ceux qui sont chargés de les appliquer ?
Ouf ! C'est une excellente question pour terminer notre exploration d'aujourd'hui. Je laisse nos auditeurs méditer là-dessus. À très bientôt pour une nouvelle analyse.